Les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Conakry, 13h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par le mouvement de contestation au Soudan. 5 manifestants, dont 4 étudiants, ont été tués par balle ce lundi lors d'un rassemblement de la ville d'Al-Obeid dans le centre du pays, selon un comité de médecins proche de la contestation. Dans un communiqué, les médecins soulignent que les 5 victimes sont tombées sous les tirs de snipers lors d'une réunion pacifique et qu'un certain nombre d'autres personnes ont été blessées, sans préciser les motif de la manifestation. Depuis le début du mouvement de contestation en décembre dernier, la répression de la part des forces de sécurité a fait 246 morts, dont 127 manifestants tués le 3 juin sur les lieux de sit-in à Khartoum, d'après un bilan du comité de médecins fourni avant les manifestations d'El-Obeid. Mais les autorités soudanaises, elles, donnent des bilans divergents et inférieurs. Le 17 juillet, les généraux au pouvoir et les leaders de la contestation ont conclu, après de difficiles négociations, un accord sur un conseil souverain composé de 5 militaires et 6 civils qui sera chargé de mener la transition pendant un peu plus de 3 ans. Les pourparlers reprennent demain pour finaliser certains points encore en suspens. La lutte contre les djihadistes dans le Sahel maintenant, l'attaque du groupe djihadiste Boko Haram samedi contre des participants à une cérémonie de funérailles dans le nord-est du Nigeria a fait un total de 65 morts, soit près de 3 fois plus qu'annoncé dans un premier bilan. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Des dizaines de corps supplémentaires ont été découverts après l'attaque par des hommes armés d'un village proche de Maïdigouri, la capitale de l'État de Borno. Il y a 65 morts et 10 blessés, a déclaré le chef du gouvernement local, Mohamed Boulama. Plus de 20 personnes sont mortes dans l'attaque contre les participants rassemblés pour la cérémonie de funérailles et des dizaines d'autres ont été tués alors qu'elles tentaient de poursuivre les djihadistes, a-t-il précisé. Le dirigeant d'une milice locale anti-Boko Haram a confirmé ce bilan tout en faisant un récit légèrement différent de l'attaque. Des journalistes de l'AFP sur place ont vu des maisons incendiées lors de l'attaque. Des proches rassemblaient les corps des personnes tuées en vue de leur enterrement. Boko Haram est actif dans le district de Nganzaï, où il mène régulièrement des raids contre les villages. L'insurrection de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria et sa répression ont fait plus de 27 000 morts et plus de 2 millions de déplacés en 10 ans.
Nigeria toujours, interdiction de l'IMN, le mouvement islamique du Nigeria, organisation chiite radicale dont le leader Ibrahim Zakzaki est actuellement en détention. C'est ce qu'a annoncé ce dimanche la présidence nigériane après une série de protestations violentes des militants du groupe chiite à Abuja, la capitale fédérale, au début de la semaine dernière. Au moins 6 manifestants, un journaliste et un policier sont morts lundi passé dans les violences qui ont éclaté pendant une marche organisée par le mouvement chiite pour obtenir la libération de son leader Ibrahim Zakzaki. Le communiqué de la présidence nigériane hier souligne que le gouvernement devait agir avant que la situation ne soit hors de contrôle, après avoir averti à de nombreuses reprises que les gens ne devaient pas se servir de la religion pour ne pas respecter les lois.
VOA Afrique en direct de Washington.
En Guinée, au moins 4 personnes, dont une fillette de 2 ans et sa mère, ont été tuées samedi dans le nord-est du pays dans un éboulement sur un site aurifère. Le point avec Bagassi Koura.
Le bilan de l'éboulement a été confirmé par la gendarmerie et un agent de la Croix-Rouge locale. Les 4 victimes comprennent une maman et sa fillette de 2 ans. 2 blessés ont également été conduits à l'hôpital de Sigiri, une ville située à environ 600 km de la capitale Conakry, selon les mêmes sources. Les victimes travaillaient dans une ancienne mine d'or interdite d'exploitation en raison des risques d'éboulement qu'elles présentaient à cause de fortes pluies. Mais les gens se cachaient pour aller dans les galeries, a indiqué un agent de la Croix-Rouge. Au moins 17 orpailleurs clandestins avaient été tués en février dans une mine près de Nyorasoba, à quelques 35 km de Sigiri. Les éboulements sur des sites aurifères sont fréquents et souvent meurtriers en Guinée. Les mineurs clandestins viennent outre la Guinée, du Mali, du Sénégal, du Burkina Faso, du Libéria et de la Côte d'Ivoire. La région de Sigiri compte à elle seule plus de 20 000 orpailleurs, selon des sources officielles.
Afrique de l'Ouest toujours, politique au Niger, le chef de file de l'opposition, Ahmad Amadou, qui vit en exil depuis la dernière élection présidentielle, ne peut plus parler et agir au nom de son parti. Ainsi en a décidé un juge suite à une requête de celui qui assurait jusqu'ici l'intérim à la présidence du parti. D'autres précisions avec notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Interprétant cette décision du juge rendue le vendredi 26 juillet dernier, le constitutionnaliste Amadou Boubacar Hassan indique qu'elle vient conforter la condamnation en 2017 de M. Ahmad Amadou dans l'affaire dite des bébés importés.
M. Ahmad Amadou risque justement de se voir opposer cette décision, sinon cette double décision du juge qui est constaté justement la perte de ses droits civils et politiques. D'abord, l'arrêt de la cour d'appel de Niamey de 2017 qui l'est condamné à un an, et sur cette base, l'article 8 du code électoral, justement, ne lui permettait pas d'être électeur, a fortiori être éligible. Et aujourd'hui, cette déchéance vraiment conforte cette position et que, sur le plan juridique, M. Ahmad Amadou ne pourrait plus prétendre être candidat aux élections présidentielles de 2021.
Malgré cette implication juridique, Ahmad Amadou et ses farouches militants restent sur leur position. La présidentielle de 2021, ce sera avec eux.
On n'est pas surpris de la décision de la justice.
La justice a décidé, on est d'accord, mais maintenant, nous avons dit que Hamma sera notre candidat et même si on nous met où qu'ils veulent, Hamma sera notre candidat. Nous, au niveau de Lumana, nous allons régler le sort du président Noma parce qu'un membre de Lumana qui convoque un président de Lumana, donc c'est une faute grave.
Le sort de Omar Numa a été justement réglé puisque dans l'après-midi du vendredi, plus de deux tiers des membres du bureau politique du parti ont décidé de désigner un autre intérimaire après avoir constaté, disent-ils, sa démission de fait en décidant d'assigner en justice le président du parti. Mais ce dernier ne l'entend pas de cette oreille.
C'est des gens que je peux moi qualifier de rebelles. Le matin, il y a une décision de justice qui me confirme intérimaire. Le soir, ils prennent une décision pour désigner un autre intérimaire, en violation des textes. Ce n'est pas que je suis contre Hamma. J'ai donné ma vie pour lui. Je me bats encore pour Hamma. Je me battrai pour lui, mais dans le respect de la loi. Parce qu'avant tout, la démocratie, c'est le respect de la loi.
En rappel, la décision du juge du vendredi dernier a été rendue sur requête de M. Omar Numa, qui contestait une lettre envoyée par le président du parti Hamma Amadou depuis son exil, mettant fin à sa fonction de président par intérim qu'il assure depuis le dernier congrès du parti tenu en 2014. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Actualité américaine maintenant, au moins trois personnes, dont un garçonnet de 6 ans, sont mortes dimanche et 15 autres ont été blessées lorsqu'un tireur a ouvert le feu lors d'un festival de gastronomie à Gilroy, en Californie, ville située au sud de San Francisco. L'assaillant a été abattu peu après le début de la fusillade, selon la police. Les violences ont eu lieu durant le festival de l'ail de Gilroy. Et puis, États-Unis toujours, le président Donald Trump s'est défendu hier des nouvelles accusations de racisme formulées contre lui suite à sa diatribe de la veille contre un élu noir et la ville de Baltimore, grand port de la côte est du pays. Nous retrouvons Bagassi Koura.
Le président américain a dépeint samedi en quelques tweets un tableau infâme de Baltimore, ville industrielle du Maryland, majoritairement noire, minée par des problèmes sociaux, la drogue et la violence. Un désordre dégoûtant, infesté de rats et autres rongeurs, a dit le président américain, ajoutant que c'est un endroit très dangereux et sale où aucun être humain ne voudrait vivre. Ces attaques visaient en premier lieu Elijah Cummings, élu de Baltimore au Congrès, qui avait critiqué la semaine dernière les conditions de détention des mineurs à la frontière avec le Mexique. Elles ont provoqué une volée de réponses indignées au sein de l'opposition. La chef des démocrates à la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, les qualifiant notamment de racistes. Les démocrates jouent toujours la carte du racisme alors qu'ils ont en réalité fait si peu pour les formidables Afro-Américains de notre pays, a répondu dimanche matin Donald Trump sur Twitter. Il n'y a rien de raciste, a-t-il insisté dans l'après-midi par le même biais, comme lorsqu'il avait invité mi-juillet 4 élus démocrates issus des minorités à retourner dans leur pays. Ces nouveaux propos ont été commentés avec parcimonie au sein de son camp.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.